Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès, avec aujourd'hui André Facetta, qui est aux manettes techniques de notre émission. Et à la une, on en parlait juste avant les infos avec Christelle Revière et Vincent Parisot. On vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du plus grand casse de banque de tous les temps. En tout cas, en 1992, on a eu raison de parler de casse du siècle. Il s'agit du hold-up de la Banque de France de Toulon le 16 décembre 1992. On va vous raconter cette histoire par le menu et surtout les coulisses de l'histoire grâce à un journaliste qu'on connaît bien ici à l'heure du crime et qui va diffuser le résultat de l'enquête qu'il a réalisée sur ce cas historique dans l'émission spéciale investigation sur Canal+, lundi soir à 22h30. Et vraiment, ne ratez pas cette diffusion. C'est un film remarquable parce que, bonjour Claude Ardide, parce que vous avez retrouvé l'essentiel des grands acteurs, les vivants en tout cas. Hein.
Le plus important, c'était de retrouver Hélène Renaud qui n'avait jamais parlé depuis cette histoire, depuis 1992. Et c'était l'objectif numéro un parce qu'elle s'était tue, parce qu'elle avait tourné la page.
Elle s'était jamais exprimée.
Jamais. Donc l'objectif, c'était d'abord de comprendre pourquoi elle avait fait ça, parce qu'elle l'avait plus ou moins dit dans les procès-verbaux, c'était apparu dans la presse de l'époque. Mais il y a des mystères chez cette femme fallait aller chercher, il fallait qu'elle nous explique pourquoi elle avait fait ça. Et puis surtout, 22 ans après, dans quel état elle était. Et c'était assez extraordinaire de la reconnaître. De la retrouver plutôt parce que évidemment elle avait changé et que elle voulait pas parler, mais en même temps j'avais le sentiment qu'elle voulait exprimer des regrets, et notamment vis-à-vis de mon voisin dans le
Mais ça, on va en parler tout de suite. Oui, parce que comme disent les policiers de temps en temps, en vue de soulager sa conscience. Alors je sais pas si ça lui a soulagé la conscience, mais c'est absolument passionnant ce qu'elle dit, ce que vous dites, toute votre enquête avec les acteurs policiers également de l'époque, ceux qui en deux mois quand même, alors qu'ils avaient été, on peut le dire, humiliés par par ce casse, qui en deux mois ont réussi à mettre la main sur l'ensemble de la bande, quoi.
Alors, non, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a trouvé, c'est pas très compliqué de retrouver les policiers qui ont dit un peu plus que ce qu'ils avaient dit dans les précédentes émissions. Ils révèlent un peu des secrets, parce que moi, je les ai un peu incités à parler, ça c'est la première chose. La deuxième, on a retrouvé des journalistes, on a retrouvé, Emmanuel de Mémé, qui était le héros tragique de cette histoire. Et puis surtout, j'ai vu tous les voyous. Alors qu'eux n'ont pas voulu s'exprimer face à la caméra. Et quand je leur disais, mais pourquoi? Parce que c'était il y a 22 ans, tous disaient, mais moi j'ai pas fait ce qu'on m'a reproché, j'ai fait de la prison pour rien. Je dis, écoutez, vous n'avez qu'à vous exprimer face à une caméra. Et là, tous m'ont dit la même chose. Attention, Claude, ils sont tous dehors. Il y a encore beaucoup de dangers à pouvoir s'exprimer, donc on préfère se taire.
Il manque 142 millions si on continue à compter en France. Il en manque peut-être un peu plus. Hein, bon. Mais en tout cas, le chiffre officiel, c'est 142 millions, c'est déjà une somme considérable. Alors, je voudrais saluer la présence dans ce studio également de Emmanuel de Mémé. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Et vraiment, je suis très heureux de pouvoir être face à vous aujourd'hui dans ce studio d'RTL, parce que vous avez vécu un enfer sur lequel on va revenir, quand même 10 heures avec une ceinture d'explosifs autour de la taille, c'est déjà quelque chose d'énorme. Vous avez servi de cheval de Troie. On va expliquer tout ça en détail tout à l'heure, pour entrer dans la banque. Mais quand Claude disait que vous êtes une victime malheureuse de l'histoire, vous avez été victime des voyous avec la ceinture en question, mais vous avez été aussi une victime, j'allais dire collatéral, pratiquement unique de cette histoire, puisque vous avez été mis totalement hors de cause, mais finalement vous avez tout perdu.
Tout perdu. Depuis 22 ans, c'est un calvaire.
Vous avez été viré de la Banque de France, pas brutalement comme ça, mais enfin on y a mis les formes, mais on l'a fait.
Licencié, j'étais quand même délégué du personnel, un accident de travail. Donc ils n'ont pas tenu compte du dol. Censément, j'aurais signé des papiers, mais bon, moi je m'en souviens pas.
Ouais. Et donc on a mis fin à vos activités d'agent de sécurité après cette affaire.
Voilà, quelques, un an après, je crois, deux ans après.
Ouais. Vous aviez à l'époque, on y reviendra tout à l'heure quand vous nous raconterez comment vous avez été cravaté, hein, c'est le mot, par deux des voyous qui voulaient vous mettre cette ceinture. Votre fils avait 6 ans à l'époque.
6 ans.
Ils vous ont emmené réveiller votre femme et cet enfant, et ça a été terrible pour lui aussi par la suite.
Ah, terrible. Ça a été jusqu'à l'adolescence, on va dire.
Alors, on va revenir avec vous hein, sur cette fameuse journée du 16 décembre. Mais d'abord, on va entendre les regrets, pas les excuses, les regrets d'Hélène Renaud. Donc, Hélène Renaud, c'est cette secrétaire bien sous tout rapport, insoupçonnable, qui pourtant... elle a toujours dit que c'était à cause d'une histoire d'amour. Ça, on reviendra avec Claude Ardide sur la genèse de l'histoire, comment est né ce scénario dans la tête de cette femme. À la fin du film, que vous verrez certainement donc sur Canal+, lundi soir, elle exprime ses regrets. On l'écoute.
Je regrette sincèrement et profondément d'avoir impliqué Emmanuel de Mémé, Manu, pour toutes les conséquences que ça a pu occasionner pour lui et sa famille. Je prononce aussi mes excuses et tous mes remords à ma famille et à celle de mon mari. Je regrette aussi pour toutes les personnes indirectement concernées par cette affaire, notamment les familles et tous les participants. Je regrette beaucoup. J'ai beaucoup de peine pour eux.
Emmanuel de Mémé, comment vous recevez ces excuses ou ces regrets 22 ans plus tard ?
Oh, ben déjà, il est bien tard.
Elle l'avait fait avant ?
Non. Non, je n'ai pas entendu. J'ai croisé cette dame. Elle a un peu, par la force des choses, parce qu'on est tombé nez à nez, s'est excusée, mais bon, c'était pas des excuses. Et puis, avec tout le mal qu'on a souffert pendant depuis 22 ans, les regrets...
Oui, voilà. On va les laisser à leur place.
Voilà, on va les laisser à leur place. Ouais.
Pourquoi elle vous a choisi, vous ?
Ben alors là, je sais pas, aucune idée. Peut-être j'étais le plus... entre guillemets, je sais pas, le plus avenant.
Et vous aviez de bonnes relations avec elle avec à l'époque, le dans le cadre de la Banque de France, avec tout le monde.
Oui, avec tout le monde. Je la connais quand même depuis l'âge de 14 ans.
Hein. Oui. Elle travaillait depuis. Elle travaillait depuis 14 ans dans.
Non, moi j'avais.
Parce dans que la banque.
Mon paternel était cadre à la Banque de France.
Oui.
Donc, depuis l'âge de 14 ans, quand on est arrivé sur Toulon, j'ai vu.
Oui.
Les arbres de Noël.
Voilà. Et donc, c'est. Oui, Claude Ardide, vous avez une explication pourquoi
On a exhumé de la cour d'assises de Draguignan le dossier judiciaire. Et donc, c'est très curieux de retrouver les procès-verbaux d'Hélène Renaud et bien évidemment les questions de la police judiciaire de Georges Bonnefond.
Oui.
Notamment, c'est de dire mais pourquoi vous avez choisi Manu de Mémé ? Elle hésite pendant quelques minutes, elle dit mais c'est pas moi, c'est Marc Armando qui était le cerveau du cas, celui qui était entré dans la banque avec le commando, etc. Et puis finalement elle finit par dire, et je l'ai pas dit à Manu parce que peut-être que ça va attiser un certain nombre de colère en lui, mais elle dit c'était le plus fragile, c'était le plus jeune, il était papa d'un petit garçon
25
de 6
ans,
papa
d'un enfant de 6
ans. Et donc quand quelqu'un est pris en otage avec sa compagne
et son fils,
c'est évidemment plus facile de craquer, de dire
bien
je vais pas risquer la peau de mon enfant et la peau de ma femme, etc.
C'est
assez terrible de lire ça, parce que quand je retrouve Hélène Renaud, donc la secrétaire comptable de la Banque de France, et que je dis mais tu te rends compte que tu as choisi quelqu'un parce qu'il était père de famille et que tu mettais non seulement sa vie en danger mais celle de sa compagne et ton fils, etc. Elle me dit oui je sais, mais je n'étais plus moi-même.
Oui, parce que pendant que Emmanuel de Mémé était avec sa ceinture d'explosifs, sa femme, sa compagne donc et son fils étaient sous la garde de deux membres de la bande, et ils avaient bien dit clairement, si vous appelez la police, si ça se passe mal, vous partez en fumée, n'est-ce pas? Et la menace était très cohérente et très crédible, hein, on est bien d'accord. Et vous saviez qu'il y avait deux voyous qui avaient votre femme et votre fils.
Voilà, ils étaient même trois, armés jusqu'aux dents.
Et armés jusqu'aux dents. Alors on va faire une pause dans cette émission. Si vous avez des questions à poser à Claude Ardide ou à Emmanuel de Mémé, faites-le. Tout à l'heure, on aura l'avocate d'Hélène Renaud au téléphone, maître Virginie Pain. Et dans un instant, on va revenir sur les coulisses de cette histoire, vous raconter d'abord ce qui s'est vraiment passé le 16 décembre, Emmanuel de Mémé va nous le dire, et puis ensuite, avec Claude Ardil, on partira dans les méandres de l'enquête, et pour expliquer comment, quand même, au bout de deux mois, ce qui est une certaine performance, la police a réussi à arrêter l'ensemble de la bande.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Le cas historique de la Banque de France de Toulon, le 16 décembre 1992, vers 17h15, une dizaine de braqueurs au visage grimé, portant des perruques, des lunettes noires, pénètrent dans la Banque de France de Toulon, en menaçant de faire sauter Emmanuel de Mémé, qui était notre invité aujourd'hui. Il a une ceinture d'explosifs autour du corps et il est obligé d'aller à la porte de la banque pour dire, ben voilà, où vous ouvrez où je saute. Et ses compagnons ont fini par ouvrir. Ça ne s'est pas passé tout de suite, il nous le dira tout à l'heure. La nouvelle, bien sûr, fait quand même tout de suite la une de l'actualité. C'est le casse du siècle. Et dès le lendemain, sur RTL, le correspondant de la rédaction dans le Var, Bernard Chaillant, raconte comment se sont déroulés les faits. C'était dans RTL Midi, qui était présenté à l'époque par Jean-Jacques Bourdin.
C'est vraiment le casse de l'année, sinon le casse du siècle. Le commando, en effet, a raflé très exactement 16 milliards de centimes. Alors, comment cela s'est-il passé? Eh bien, les malfaiteurs ont d'abord neutralisé un agent de surveillance de la Banque de France chez lui, dans la banlieue de Toulon. Pour ce faire, ils se sont fait passer pour des livreurs de champagne. Le commando a ensuite attendu tranquillement 17h15 pour se rendre au siège de la banque, qui se trouve, entre parenthèses, à deux pas du commissariat central. Pourquoi 17h15? Eh bien, parce que le vigile devait reprendre le travail à 18h. Emmanuel de Mémé, c'est son nom, a vécu un véritable cauchemar. D'abord parce qu'il savait que sa femme et son fils, âgés de 6 ans, étaient pris en otage. Ensuite, parce qu'il a été littéralement lesté d'explosifs. Les gangsters lui avaient placé une ceinture banane bourrée de dynamite avec un système de mise à feu à distance autour de la taille. Du coup, personne n'a bougé lorsque les malfaiteurs ont fait irruption dans la banque avant de dévaliser la salle des coffres. Ils sont partis par la grande porte très tranquillement. Pour eux, c'est Noël avant l'heure.
Comment ça se passe, Emmanuel de Mémé? C'est 10 heures avant le casse, hein, dans le matin très tôt. Vous avez travaillé à la nuit?
Voilà, je rentre de mon service de nuit et je me dirige vers la porte d'entrée de mon immeuble, normal. Mmh. Et il y a une personne qui est en train de sonner à un voisin ou une voisine et qui explique que c'est le livreur de champagne. Et moi, j'ai la clé engagée. Mmh. Et la voisine dit qu'elle n'a pas commandé de champagne, il est 7 heures. Hein.
Ouais.
Alors je me retourne. Pour voir, oui. Elle a la tête qu'ils ont, j'ai pas le temps de me retourner, que je suis projeté dans l'entrée, dans le hall.
Oui.
Et là, c'est des coups de pied, on me tire, on me fait le détaquer, on me tire dans un coin pour pas qu'on me voie de la rue.
Oui.
Là, on se met sur moi, on me braque un canon de revolver sur la tête et on me dit, tu bouges pas, tu sais pourquoi on est là? Alors, moi, j'ai dit non, mais on est là pour la banque. Oui. Bien. Alors, ils m'ont monté à la maison.
Ils savent où est votre appartement. Vous allez vous apercevoir, d'ailleurs, très vite, que ça fait longtemps qu'ils vous surveillent.
Ça faisait un bout de temps qu'ils me surveillaient, ça c'est sûr. Mmh. Et donc, on monte dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, je suis toujours au sol. Ils m'expliquent en deux secondes que je vais rentrer sans faire de bruit, que je vais réveiller ma femme.
Oui.
Voilà. Donc, il y a un autre gars qui est derrière moi, avec une Kalachnikov, ou je ne sais pas ce que c'est, un fusil mitrailleur.
Oui.
Et j'ouvre la porte de la chambre, ma femme
est endormie. Notre épouse dort, est endormie.
Est endormie, oui. Je la réveille doucement, elle ouvre les yeux, elle voit le gars avec la mitraillette. Et
sacré début de journée, hein, oui. Voilà.
Et là, c'est le début de l'enfer.
Ouais. Et là, donc, ils vous donnent des explications. Ils vous disent, voilà, on va braquer la banque, mais c'est toi qui vas y aller, te faire ouvrir, parce qu'on va te mettre une ceinture d'explosifs. Ils annoncent ça très vite.
Alors déjà, ils me posent plein de questions. Ils me demandent les temporisations des coffres. Moi, je leur dis n'importe quoi. Parce que je ne suis pas censé le savoir.
Oui.
Et dès que je disais n'importe quoi, ils me mettaient des claques et ils me disaient exactement...
Donc ils savaient. Voilà. Donc vous comprenez qu'ils en savent plus que vous.
Ah ben, ils en savaient plus que moi. Alors, après, il y a leur chef qui est arrivé, qui les a calmés un petit peu. Parce qu'entre-temps, mon fils s'est réveillé, il a vu qu'on me secouait, donc... j'étais pas trop chaud et j'étais vraiment mal, quoi. Et
bien sûr.
Je me demandais ce qui arrivait. Et plus ça allait, plus les gens rentraient dedans, les gangsters rentraient dans la maison.
Mm-hmm.
Et le chef les a calmés, il m'a expliqué exactement ce qui allait se passer, le déroulement de la journée.
Oui.
Comment ils allaient faire pour rentrer, qu'ils allaient me barder de dynamite. Et donc, bon, il est quand même, il est 11h. Oui. 10h, 11h.
Oui. Votre épouse et votre fils savent qu'on vous met une ceinture d'explosifs?
Non, ça se passe devant eux,
non?
Me semble pas.
Ouais. Après, ils vous emmènent en voiture et votre femme et votre fils sont sous la garde donc de trois.
Non, ils sont emmenés. Eux.
Ils sont emmenés
avant moi.
D'accord.
Ils sont emmenés
parce qu'ils vont être gardés ailleurs.
À 25 km de Toulon.
D'accord.
Devant la maison d'un cadre qui a des clés pour ouvrir.
Ah voilà. Bon.
Ils étaient prêts, s'ils ne trouvaient pas le cadre dans la banque, aller chercher sa femme et ses deux filles.
D'accord. Donc c'était extrêmement organisé. Vous allez trouver, ça je m'adresse à Claude Ardide, un peu plus tard, Emmanuel de Mémé va s'apercevoir qu'il y avait un micro dans l'appart.
Alors, c'est choses qu'on a trouvées d'ailleurs.
Ça ne s'est jamais dit.
Non, mais d'abord il faut voir, Manu, c'est vrai qu'il ne se souvient pas de tout forcément, parce qu'il y a 22 ans,
moi j'ai vu ça.
Il le suivait depuis des semaines, il l'observait, il m'a raconté quelque chose tout à l'heure au restaurant où il était avec son oncle dans un champ, il y avait une espèce de camping-car avec deux mecs qui le surveillaient avec des jumelles, etc. Oui. Donc il était suivi. Et puis, chose absolument incroyable, c'est ce qu'il nous dit, mais moi je l'avais oublié, mais je l'ai retrouvé dans les procès-verbaux du dossier judiciaire, c'est qu'ils avaient placé un micro derrière l'armoire de la chambre à coucher
donc,
pour écouter.
Pour vous espionner.
Quand, voilà, et donc, à un moment donné, quand il est pris, séquestré dans son propre appartement, il voit les voyous pousser l'armoire, décrocher le micro, et là, Manu, il dit, mais mon Dieu, il m'écoutait dans la chambre à coucher. Donc là, il comprend qu'il est tombé dans un piège. Mais
un piège diabolique très bien préparé.
C'est un viol, là, déjà, de la personne.
Bien sûr, j'imagine bien.
Déjà, quand vous voyez ça, dites-vous, qu'est-ce qui se passe?
Et la chose qu'il oublie de dire, c'est qu'au moment où sa compagne et son fils s'en vont avec trois personnes qui vont l'écarter... Il dit, Manu, il le raconte très bien dans le film, il dit, mais vous les amenez où? Là, ils lui disent, t'as pas le savoir, mais sache que si tu nous fais pas rentrer à la Banque de France, on va les fumer, on va les tuer.
Ouais.
Vous imaginez la position de Manu à ce moment-là,
qui
voit sa femme et son fils disparaître en se disant, peut-être que je le reverrai pas. Et d'ailleurs, il dit quelque chose qui est assez comique presque dans la tragédie. Ils disent, avant de partir à Manu, ferme la porte. Et Manu dit dans le film, mais à quoi ça sert de fermer si on ne revient pas?
Eh oui, et donc, parce qu'on vit avec ça quand même. Hein, parce que là, on en parle de façon légère maintenant,
mais c'est tragique.
Pour vous, c'est une tragédie, quoi, en fait. Vous avez vécu une tragédie.
Ah ben, j'ai vécu une tragédie et ça ne s'arrête pas.
Oui, mais ça...
voilà, le problème, c'est ça, la tragédie de la journée.
Ouais.
En fin de compte, c'est...
Parce que après, pardonnez-moi...
Je vais peut-être extrapoler, mais...
Ouais.
C'est une maladie grave, on va dire, d'une journée.
Oui, mais ça dure.
Il y en a, ils se l'attirent, les pauvres, pendant 20 ans, en maladie, je parle.
Ouais.
Et moi, là, en une journée, on a eu un truc, boum.
Qui domine votre vie toujours, quoi, aujourd'hui, Parce qu'on vous amène donc en voiture, etc., je renvoie tout le monde au film de Claude. Vous arrivez devant la banque, vous avez cette ceinture d'explosifs, et c'est vous qui sonnez. Il faut que vous disiez à la personne qui est de l'autre côté de la porte, il faut ouvrir.
Voilà,
et
faut
il
ouvrir.
S'aperçoit très vite que, donc, il faut ouvrir. Il se montre les voyous en même temps que
pour
vous.
Pour l'instant, non.
Non,
pour l'instant,
vous envoie tout seul sonner.
Voilà, je sonne, et la personne qui... Je lui explique, mon fils, ma femme... Il veut pas m'ouvrir. Elle a dit non, je vais me faire renvoyer, je t'ouvre pas. Alors je lui ai dit, je me mets à genoux. Et non, il était hors de question. Non, moi je t'ouvre pas, on va me renvoyer. Il m'a dit. On me licencie. Et il y avait un autre collègue qui était dans une petite salle plus bas, qui est monté, qui m'a vu, qui a expliqué. Et en fin de compte, il a ouvert. Il nous a sauvé la vie, entre guillemets.
Évidemment.
Ouais, parce que là, il nous a sauvé la vie. Lui, il a perdu un mois de salaire ou deux mois de salaire, quand même. Il a eu une mise à pied. Mais bon.
Bon, on lui a reproché d'ouvrir à un homme qui disait j'ai une ceinture d'explosifs.
Ouais. Après moi, c'était mon métier, c'était normal.
Ouais. C'est moyen, hein,
voilà.
Ça. Ouais. Alors, on va faire une pause dans l'émission. On va continuer à vous parler à la fois de ce qu'a vécu et de ce que continue à vivre Emmanuel de Mémé. Puis avec Claude Ardide, on va aussi vous emmener dans les coulisses de l'enquête de la police. Ça n'a pas été facile, mais enfin, et on dit toujours chez les journalistes et chez les policiers que la chance, quelquefois, fait partie du talent. C'est un peu ce qui leur est arrivé. On va vous expliquer ça tout à l'heure.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes en compagnie du journaliste d'investigation Claude Ardide qui a enquêté sur les coulisses de ce casse du siècle en décembre 1992, la Banque de France de Toulon. Le résultat de son enquête filmée va être diffusé. C'est un documentaire absolument remarquable dans l'émission spéciale investigation diffusée donc lundi prochain à 22h30 sur Canal+. Et Claude Ardide est venu dans ce studio avec Emmanuel de Mémé, qui est un des personnages centraux de son film. Il a rencontré, comme on l'a dit, également Hélène Renaud. Hein. Bon, heureusement, vous n'avez pas appelé votre film Hélène et les mauvais garçons. J'imagine que vous avez dû vous le suggérer. Et puis, vous avez rencontré les policiers, bien sûr, et les autres voyous, et y compris des gens qui vous ont dit, hein, ce que vous rappeliez tout à l'heure. Attention, c'est encore très chaud, cette histoire. Il manque 142 millions, voire, je sais pas, allez, auprès de Corriche, hein. Vous diriez quoi, 200, 300 millions
Moi, j'ai un gros doute parce que il y a quand même une anecdote qu'on n'a pas mise dans le film parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire. Mais le lendemain ou le surlendemain, je pense que c'est vrai. Le surlendemain du hold-up, le directeur de la Banque de France est obligé de tenir les comptes du montant exact du butin.
Eh oui.
Et il va s'adresser à qui pour faire les comptes? Il s'adresse à Hélène Renaud. Ah. Il va la voir en lui disant, écoute, voilà, il faut combien faire il les comptes, ouais. Combien il manque.
Elle est comptable.
C'est ce que m'a dit Hélène Renaud. Et donc, elle m'a dit exactement, elle me dit, c'était 146, 147 millions de francs, 250 millions, quasiment au centime près. Je dis, c'est pas possible, cette histoire. Elle me dit, non, il est venu me voir, il m'a demandé, c'était mon boulot, etc. Et comme personne, évidemment, ne la soupçonne à ce moment-là, parce que c'est la top modèle, comme on l'a appelé par la suite.
Donc, la question, c'est, est-ce qu'elle a dit la vérité? Est-ce qu'il n'y avait pas deux ou trois fois plus? Parce que, on peut en parler, Emmanuel de Mémé, deux secondes, c'est qu'ils sont partis avec quoi? Deux véhicules énormes, non?
Ils sont partis avec l'Express,
ouais.
Donc le petit véhicule.
Ouais.
Et après, ils sont partis
c'est ça,
4, avec...
4 mètres cubes, c'est celui-là.
4 mètres cubes, oui, ça doit faire 3 mètres cubes et demi, 4 mètres cubes et un Express. Mm-hmm. Et après, ils sont partis avec un fourgon surélevé et rallongé.
Ah oui.
Un master, c'était.
D'accord. Donc, on peut supposer qu'il y a eu beaucoup plus de billets qui sont sortis de là. Et alors, pourquoi on ne connaîtrait pas la somme exacte ça gêne aux entournures. Les responsables de la Banque de France.
Oui, je pense que, de toute façon, les responsables ne vous disent jamais le montant exact d'un club, même si c'est.
Je ne sais pas s'ils sont assurés, d'ailleurs, en fait.
Ils sont assurés. Ouais. Non, moi. Alors, Manu, peut-être, me dit, Manu m'a toujours dit, c'est bien plus que ce que le chiffre officiel. Moi, j'ai rencontré des voyous qui m'ont dit, ils te disent que c'est 145, 150 millions de francs. En fait, il y avait beaucoup plus. Et puis, vous avez les sources policières. Et quand j'ai vu Georges Bonnefond, etc., j'ai dit, mais Georges,
c'était l'ancien patron de la PJ de Toulon.
De la police judiciaire, ils disent, nous, on se réfère aux chiffres donnés par la Banque de France. Ouais. Mais grosso modo, moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus que ça. Et quand je rencontre Marc Armando en 2009, donc le cerveau du cas de Banque de France,
qui n'est plus de ce monde, il s'est suicidé dans des conditions qu'on rappellera tout à l'heure.
Et Marc, je dis c'est 145, c'est 150, c'est 170 millions. Il me dit c'est entre 150 et 200 millions de francs. Donc j'ai tendance à croire celui qui n'avait aucun intérêt à me mentir, et je pense que le chiffre est largement au-dessus de celui qui a été dit officiellement par les autorités bancaires.
Alors on va entendre un autre document RTL de cette époque-là. C'est vraiment le lendemain du casse, le 17 décembre. Évidemment, tous les journalistes veulent savoir un peu si la police a des pistes ou pas. En fait, ils sont en plein brouillard, comme le confirme sur RTL. Vous allez entendre maintenant notre correspondant à l'époque, Bernard Chaillant.
Les policiers sont dans le brouillard le plus complet. Cette nuit et ce matin, ils ont longuement entendu tous les témoins, une vingtaine de personnes au total, mais aucun indice déterminant n'est apparu pour le moment. Après ces auditions, vous savez, en fait, les enquêteurs n'ont guère que deux atouts dans leur manche. Le premier, comme toujours, c'est le temps. L'un des malfaiteurs ou l'un de ses proches peut parler, faire une confidence, changer trop brutalement de train de vie, bref, faire la faute qui perdra tout le gang, qui a peut-être bénéficié d'une complicité interne. C'est l'une des hypothèses de travail des policiers. Et puis, ils ne sont pas nombreux dans le milieu marseillais ou toulonnais à pouvoir mettre au point et réaliser un tel coup, à avoir la pointure suffisante. Alors bien sûr, de là à dire que l'enquête va nécessairement aboutir, il y a un grand pas. Mais une chose est sûre, le plus dur reste à faire, paradoxalement, pour ces malfaiteurs. Ils savent que les policiers vont les traquer partout, même à l'étranger.
Alors, vous avez, Claude Hardid, donc longuement revenu avec les responsables policiers. Il y a eu la PJ de Toulon, il y a eu des policiers de Marseille, il y a eu l'anti-gang. La police était sur les dents quand même. Hein. L'expression brouillard convient, hein, je crois.
Ah non,
que
mais ils sont plus dans l'utilisent
eux-mêmes hein, dans
ils,
votre
ils ont interview. Rien, mais, ouais, alors, si vous voulez, c'est assez extraordinaire parce qu'ils vont entendre, d'ailleurs y compris le premier suspect, n'oubliez pas,
oui.
Il est à côté de moi.
Oui, on l'a pas dit, bien sûr.
C'est Emmanuel de Mémé. Parce qu'on se dit, peut-être que, d'ailleurs les flics le disent dans le reportage, ils disent peut-être que Manu a été frappé du syndrome de Stockholm, qu'il a sympathisé avec les voyous, et que donc il s'est laissé emporter par un excès de sympathie pour eux, et que donc il aurait pu au dernier moment accepter de porter une ceinture, puisqu'ils ont appris par la suite que la ceinture n'était pas branchée au détonateur. Et donc le premier suspect, c'est Emmanuel.
Enfin, vous avez vécu, Emmanuel de Mémé, un moment quand même terrible, c'est que vous le racontez dans le film de Claude Hardid, le casse a lieu, ils s'en vont, et ils vous disent, il est donc, je sais pas quoi, 18h, même pas, ça a commencé à 17h15, ça va très vite, non, cette affaire. Et quand ils s'en vont, ils disent, attention, vous appelez pas la police avant telle heure, parce que sinon, vous sautez, on s'adresse à vous, avant 20h, votre fils et votre femme,
on les liquide.
On les liquide. Et vous, évidemment, vous devenez un danger pour tout le monde. Tout le monde, vous avez la ceinture d'explosifs, on vous pousse finalement dans la cour.
Ben, non, non.
Vous allez avoir un grand moment de solitude, non,
dans la cour. Tout le monde ne s'en va, parce qu'on arrive à trouver une hache. Moi, en plus, je fais sortir
pour libérer les gens qui avaient été...
Voilà. Donc, ils s'en vont tous et ils me laissent tout seul. Ils me laissent tout seul. Non, il y a la personne qui m'a ouvert la porte.
Ah oui.
Qui reste avec moi.
Et qui vous dit que c'est notre père et des je vous salue Marie, c'est ça ?
Voilà, je lui dis de descendre et il prie en bas. Quelqu'un qui n'a jamais parlé de bon Dieu.
Il ne
fallait pas lui en parler. Et là, je suis tout seul. Il y a une alarme qui se déclenche. Je regarde la sacoche, il y a toujours la lumière rouge qui clignote.
Oh là là.
Parce que peut-être que ce n'était pas débranché au détonateur.
Mais
il y avait quand même 300 grammes de C15.
Ouais.
Donc si je me jette par terre, ça pète.
D'accord.
Et après, jusqu'au démineur.
Voilà, qui arrive.
Voilà, qui arrive.
Et tout, et qui, voilà. Alors, donc, il y a ça. Il le soupçonne, vous disiez. Hélène Renaud, pour l'instant, elle apparaît pas dans le truc.
Ils prennent tous les employés de la Banque de France parce qu'ils disent, c'est pas possible, ce cas s'est passé en une heure, ils ont raflé, donc, 150 millions de francs. Ils étaient au courant de tout. Donc, ils pensent, ils imaginent qu'ils ont une complicité à l'intérieur. Donc, ils pensent d'abord à Emmanuel de Mémé. Et après, ils vont entendre les 90 employés de la Banque de France. Ils vont tous les entendre sur procès verbal. En leur posant des questions qui sont des questions assez simples. Et au bout de 3 jours d'audition,
il n'y a rien.
Rien. Strictement.
Alors, c'est là la chance. La chance qui fait partie du talent, non ?
Ouais, alors.
Ils ont un tuyau qui leur tombe.
Non, ça, alors, Georges Bonnefond, donc l'ancien patron de la PJ, dit pour avoir de la chance, il faut avoir des contacts.
Oui,
il a un contact dans le milieu du banditisme à Toulon et il y a un indique qui va leur donner un renseignement absolument incroyable. Donc, on est le 21 décembre, 5 jours après le casse.
Oui.
Le type négocie son renseignement et dit je vous donne un prénom. Et vous vous débrouillez. Et il donne un seul prénom, il donne le prénom d'Hélène.
Voilà.
Donc là, ils vont dans la régie du personnel, ils tombent sur la seule qui s'appelle Hélène. Oui. Hélène Renaud est là, la machine est partie, et l'enquête se déclenche immédiatement sur Hélène Renaud.
On fait une pause, tout de suite, et on va parler d'Hélène Renaud. On va revenir plus en détail sur les raisons et les circonstances dans lesquelles elle a imaginé ce scénario diabolique. Il faut bien le dire.
L'heure du crime sur RTL.
Toulon, le casse du siècle, décembre 1992, on vous raconte cette histoire avec le journaliste d'investigation Claude Hardid, dont l'enquête qui a abouti à un documentaire absolument formidable va être diffusée sur Canal+, lundi soir, et nous sommes également en compagnie d'Emmanuel de Mémé, c'est lui qui était l'agent de sécurité que les voyous avaient choisi, sur indication d'ailleurs, dit-on, d'Hélène Renaud, mais ça on va reparler dans un instant, pour être le cheval de Troie, c'est-à-dire menacé de faire sauter cet homme si ses collègues n'ouvraient pas la porte de la Banque de France. On parlait avec Claude Hardid il y a un instant de l'enquête. Bon, ils sont dans le brouillard, il y a ce tuyau, Hélène. Finalement, ça va être assez productif et pour des raisons, qu'on comprend après coup beaucoup plus facilement, il va y avoir des écoutes téléphoniques, il va y avoir des filatures, et le 16 février 93, 2 mois jour pour jour après le casse, les policiers vont interpeller plusieurs membres de la bande. Ils vont s'apercevoir, donc, en fait, il y a comment dire, des professionnels et deux amateurs, on peut dire ça comme ça peut-être, qui sont Hélène Renaud et son compagnon Gino, dont on va reparler avec vous dans un instant, Claude Hardil. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende un autre document RTL, c'est le portrait d'Hélène Renaud, portrait évidemment encore très très maigre et très mince, qu'on va compléter dans un instant avec Maître Virginie Pain, qui est l'avocate d'Hélène Renaud. Mais là, écoutez, c'est Bernard Chaillan qui dresse un premier portrait d'Hélène Renaud, tout de suite après son arrestation. Le document date du 17 février 1993.
Attachée de direction, donc haut placée dans l'organigramme de la Banque de France à Toulon, Hélène Renaud était au courant de tout, des horaires de travail de chacun, des systèmes de sécurité et notamment des heures d'ouverture de la salle des coffres. Elle connaissait aussi les jours précis où les rentrées d'argent sont les plus importantes. Et du coup, le commando avait pu opérer sans aucune difficulté. Mais cet extraordinaire atout s'est retourné contre les gangsters. Les policiers ont tout de suite compris qu'il y avait une taupe au sein de la banque. Tous les employés ont été placés sous haute surveillance. Et très vite, l'attachée de direction a été soupçonnée. Elle était très proche d'un homme au passé plutôt douteux. En fait, le cerveau du casse. Alors, les enquêteurs ont concentré tous leurs efforts sur le couple. Ils ont aussi secoué leurs indices. Et mardi soir, leur coup de filet a débuté par l'arrestation de l'employé modèle. Hélène Renaud venait de recevoir sa part du butin, 5 millions de francs. Ce coup de filet n'est pas complet. 3 ou 4 suspects sont en fuite à l'étranger, mais ils sont tous identifiés. Les policiers avaient été ridiculisés. Moins de 2 mois plus tard, ils tiennent leur revanche.
Bonjour, Maître Virginie Pain.
Bonjour Jacques Pradel.
Merci d'avoir pris quelques instants cet après-midi pour parler d'Hélène Renaud, donc dont on va beaucoup reparler là parce qu'elle est un des personnages centraux évidemment du film de Claude Hardid. Vous pouvez en quelques mots nous dire quand vous êtes choisi par elle, je sais pas comment ça s'est passé exactement. Enfin, vous allez assurer sa défense. J'imagine que l'avocate que vous êtes doit savoir un peu comment les choses sont nées, etc. Vous avez de longues conversations, j'imagine, avec elle. C'est vrai qu'elle dit tout de suite, tout ça c'est à cause d'une histoire d'amour ?
Oui, Hélène assume complètement le côté passionnel de cette histoire au départ, hein, en la reliant effectivement à cette histoire d'amour. C'est également quelqu'un qui assume tout court, puisqu'elle dira aux enquêteurs « j'ai joué, j'ai perdu, je vais payer ». Et c'est une femme très amoureuse et qui a un petit peu pris à ce moment-là de sa vie, alors qu'elle avait eu jusque-là une existence très rangée, qui a un peu pris sa vie pour un roman, qui s'est mis à devenir l'héroïne du propre roman de sa vie.
Alors, qu'on comprenne bien, elle imagine dans sa tête, comme elle travaille là depuis 14 ans à la Banque de France, que elle pourrait faire un casse et puis elle pourrait être riche jusqu'à la fin des temps, et elle en parle à son compagnon Gino.
Alors oui, il y a une interaction, alors sans savoir vraiment très très précisément au départ qui a l'idée, mais il est évident que des conversations entre Hélène et Gino, cette idée va naître de façon commune. Gino se disant qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec des gens qu'il peut connaître.
Ouais. Elle rêve et lui dit après tout on pourrait faire jouer le scénario dans la réalité, quoi.
Voilà, et puis il faut pas oublier qu'à cette époque-là, la Banque de France subit de très très gros travaux, qu'Hélène voit les plans exposés, voit les systèmes de sécurité mis à jour, et que tout ça est offert en quelque sorte, et qu'elle va avoir très vite des idées qui vont mener le couple au projet qu'on connaît.
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de cette femme que vous connaissez depuis tout ce temps ?
Je ne vous entends plus.
Oui, alors je vous disais, Maître, qu'est-ce que vous diriez, comment en quelques mots, quel portrait vous feriez de cette femme ? Compte tenu du fait que
maintenant...
Bon, alors, écoutez, on a un petit problème.
Ça y est, je vous entends.
Ah, voilà. Donc, quel portrait pourriez-vous faire en quelques mots de cette femme, compte tenu de ce qu'elle a fait il y a 22 ans, mais ce qu'elle est devenue par la suite?
Alors, Hélène Renaud, c'est une femme extrêmement brillante, intelligente, charismatique, et d'ailleurs, ça ne la servira pas à son procès, parce qu'elle ne s'attirera manifestement pas à la sympathie des jurés. C'est une femme qui est un peu trop tout. Hein. Mais c'est une femme qui a pleinement assumé ce qu'elle avait fait, qui l'a assumé jusqu'à la dernière minute, qui s'est parfaitement intégrée dans la vie de la prison, en aidant les autres détenus, en créant des ateliers pour les détenus qui ne savaient pas lire, etc. Ce qui lui a d'ailleurs permis d'avoir une réduction de peine très significative et de sortir au bout de 6 ans et quelques.
Hein, elle avait été condamnée à 14 ans.
De 14 ans. Et qui a continué, qui n'a pas refait sa vie, qui a continué sa vie sans effacer ce passage-là, qui fait partie de son histoire et qui, je le répète, depuis le premier jour, qu'elle assume complètement, ce qui est quand même assez marginal dans ce genre de dossier où les gens vont tenter de se justifier. Non, Hélène a toujours assumé ce qu'elle avait fait.
Je vous remercie beaucoup d'avoir donné votre éclairage personnel sur le portrait de cette femme. On va faire une pause. On retrouve ensuite Claude Ardide pour vous donner quelques précisions sur les coulisses de l'enquête et sur la suite de l'histoire. Et puis surtout Emmanuel Demémé, parce que il y a eu cette journée, comme il l'a dit, terrible. Et la suite a été terrible aussi. On va en parler ensemble.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et c'est la dernière partie de l'heure du crime consacrée à ce casse du siècle. Et vous avez compris que, effectivement, la somme d'argent qui est sortie le 16 décembre 1992 de la Banque de France de Toulon était certainement énorme, et peut-être plus énorme que déjà les chiffres qui ont été avancés de 150 millions de francs, c'est-à-dire 22-23 millions d'euros actuellement. On est avec Claude Ardide et Emmanuel Demémé. Je reviens à vous, Claude Ardide, dans un instant pour tirer un peu les enseignements de tout ça, parce que c'est aussi un des plus de votre travail, c'est de mettre ça en perspective. Mais d'abord, Emmanuel Demémé, je voudrais qu'on vienne à ce qui s'est passé après. On peut pas tout raconter en détail. Vous en avez beaucoup parlé, évidemment, avec Claude Ardide. Je vais vous dire un truc. Je sais pas si vous en parlez dans le film, mais je me souviens d'une conversation qu'on avait eue il y a longtemps. C'est vrai qu'un jour, on vous a dit, tiens, il y a un cocktail à la Banque de France, t'es invité, et c'était pour remettre la médaille du courage, mais pas à vous.
Et pas à moi, tout à fait.
C'est vrai, ça,
hein? Ça, c'est vrai, ça.
À la personne qui vous a ouvert la porte, quoi.
Non.
À qui on a donné la médaille du courage
Au caissier. Celui qui a ouvert les portes d'en bas.
D'accord, je croyais que c'était voilà. celui non, qui non, vous avait ouvert
non,
la porte
non, c'était
vous.
Le caissier. Voilà.
C'est lamentable quand même, non? C'est pas, je ne dis rien évidemment pour ce malheureux caissier que je ne connais pas. Mais je trouve que l'attitude de la Banque de France là est assez moyenne.
Ils m'ont écrasé.
Mais vous pensez qu'ils ont, eux, soupçonné de leur côté que vous étiez dans le coup?
Pendant des années.
Oui, d'accord.
Pendant des années.
Alors que la police vous a blanchi, que voilà.
Oui.
Très vite,
Claude.
J'étais
très vite blanchi, ouais.
Ben oui.
Ouais, moi j'étais très vite blanchi, mais j'ai été embêté quand même pendant un bout de temps.
Hein. Oui. Alors votre vie a explosé, on peut dire ça comme ça par la suite.
Ah ben après il y a eu séparation, il y a eu plus de vie, on pouvait même plus vivre, on pouvait plus, on a dû déménager.
Ouais,
on n'a même pas eu quelqu'un pour nettoyer l'appartement, parce qu'après ils ont fait les empreintes, il y avait la poudre de plomb, il a fallu qu'on nettoie nous l'appartement pour ne plus y habiter, parce qu'après on n'y est plus resté.
Ouais,
quand vous n'avez pas resté dans un endroit où vous a truffé une micro de...
Ouais.
Ça a duré quelques temps, et puis après on s'est séparés parce que la pression était trop forte.
Ouais.
J'avais des menaces, j'étais embêté, je ne pouvais plus travailler.
Pourquoi vous aviez des menaces?
Parce que peut-être que j'en ai trop vu, moi. Peut-être que je les ai vus, les billets passés.
Il faut comprendre quelque chose, Jacques.
Oui, Claude Ardide, oui.
Le seul qui voit tout, c'est Emmanuel Demémé. Mm-hmm. Il les voit le matin, même s'il ne les reconnaît pas dans son appartement quand il est pris en otage avec sa femme et son fils.
Oui.
Il les voit faire le hold-up. Il les voit descendre dans la salle des coffres. Il les voit ouvrir les portes et coffres. Oui. Il les voit charger les billets.
Parce qu'ils ont enfermé une partie du personnel qui n'ont rien vu. Donc,
il voit tout. Mm-hmm. C'est le seul témoin.
Oui.
Il voit tout, Emmanuel. Donc, c'est le personnage central, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est soupçonné. Il me dit quelque chose, et c'est vrai, j'en suis intimement convaincu, parce qu'il a craqué dans l'interview, parce que l'interview qu'on a faite était très longue, et je voulais qu'il me dise, ou à un moment donné, il me dit, je crois que la Banque de France, et beaucoup de gens auraient préféré que je meure en héros, c'est-à-dire que qu'il explose devant le SAS, en disant non, je ne vais pas rentrer, donc je vais me faire sauter. Je pense qu'il a raison quand il dit ça. Il dit, je pense qu'il aurait fallu que je sois un héros, mais un héros mort, et pas quelqu'un de vivant aujourd'hui. Et quand quelqu'un vous dit ça, 22 ans après, c'est extrêmement fort, quoi. Et il m'a dit tout à l'heure que sur les marchés encore aujourd'hui, parce que ça marche pas très bien en ce moment sur les marchés, il y a des gens qui lui disent, mais Manu, t'en fais pas, t'as qu'à déterrer ce que t'as dans le jardin. Parce qu'il y a des gens qui pensent...
Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi.
Voilà, qu'il a encore des billets de banque planqués dans le jardin.
22 ans que j'entends ça tous les deux jours. On va pas dire tous les jours.
Parce que le travail que vous exercez, c'est vous vendez des vêtements sur les marchés de la région.
J'ai trouvé que ça à faire parce que j'irais plus faire d'autres.
C'est incroyable.
Voilà. Et là, ça marche pas. Donc, je peux plus rien faire. Donc là, je vais me retrouver.
Vous n'avez jamais été indemnisé de quoi que ce soit pendant.
Alors, on m'a donné une indemnisation.
Oui. D'accord.
Il y a un conseil qui m'a fait partir.
Oui.
Voilà. Qui en a pris une bonne partie. Après, pendant 2 ans et demi, on m'a pas payé. Ouais. On m'a déclaré décédé. Attention, si j'ai été décédé 2 ans. Hein.
Ah bon?
Ah oui, non, mais c'est folklorique. Hein.
C'est fou, ça.
Et ça fait 22 ans que la Banque de France ne s'est jamais souciée, n'a jamais demandé les nouvelles de mon fils et de sa maman. Hein.
Ouais, je comprends. Ouais.
Jamais.
Ouais.
Ils sont passés... Voilà, c'est comme ça.
C'est pour ça, Claude Ardide, que vous avez voulu faire cette enquête?
J'ai voulu faire cette enquête pour il y a 3-4 raisons, parce que j'avais interviewé Manu il y a 22 ans pour un grand magazine français, et je savais que sa douleur, sa souffrance était énorme. Je voulais aussi retrouver Hélène Renaud, parce qu'elle n'avait jamais parlé, et que périodiquement, on parlait de cas, c'est le plus important, mais il se trouve que celui de Toulon, c'est le plus important dans le monde. Et je voulais savoir ce qu'elle avait réellement en tête, cette femme, et ce qu'elle avait aussi en tête avec son complice. La troisième raison, c'est que j'avais rencontré Marc Armando Le Cerveau il y a 4 ans, et que quand j'ai appris qu'il s'était suicidé, le ciel m'est tombé sur la tête.
Oui.
Et surtout, je voulais savoir où était passé le pognon.
Oui.
Et c'est pas très compliqué. Non, mais sauf si vous voulez,
vous le savez pas.
Si, moi je le sais.
Ah bon.
Je le sais.
On a dit que ça avait. On a dit. Alors, on va pas accuser des gens ici, évidemment, un micro ouvert sur RTL ni sur Canal+. Ouais. On a dit que ça avait pu participer au financement de.
Alors, voilà. Moi je pense que
politique
ou autre. Il y a de l'argent
qui
est parti aux Antilles, ça c'est sûr. Les flics ont enquêté pendant très longtemps sur un complexe hôtelier à Saint-Barth.
Donc une partie a été blanchie et réintégrée dans le circuit officiel.
Hôtelier, officiel, etc. L'argent est aujourd'hui sur la Côte d'Azur, entre Villeneuve-Loubet, Cannes-la-Bocca. Et du côté de Monaco, voilà.
Ouais. Plus sous la forme des billets.
Non, mais évidemment que
on est bien d'accord.
Il est reblanchi.
D'accord.
Et il est passé par des paradis fiscaux. Il a été lessivé, etc.
D'accord.
Il est sur la Côte d'Azur aujourd'hui.
Mm-hmm.
Bon. Je pense même que, si vous voulez, je pense connaître ceux qui ont fait le coup, qui n'ont jamais été arrêtés, parce que ça parle quand même encore aujourd'hui, 22 ans après. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ceux, les branquignols qui étaient dans le coup, disent aujourd'hui, attention, il faut se méfier, c'est dangereux encore dans cette affaire-là. Mais voilà, donc, si vous voulez, tout est à peu près su aujourd'hui, sauf qu'il faut être prudent, il faut avancer à pas de loup, etc., même 22 ans après.
Je vous remercie beaucoup, Claude Ardide. Donc, j'envoie tout le monde à votre film qui va être diffusé à 22h30 sur Canal+, lundi soir. Merci beaucoup, Emmanuel de Mémé, d'avoir à la fois reparlé de ce qui vous poursuit depuis toutes ces années. On vous souhaite un bon courage aussi.
Merci.
Voilà. Sur les marchés de la Côte d'Azur, mais peut-être que...
Il faut l'aider, Manu.
Si quelqu'un... Si un employeur potentiel est là, vous pouvez prendre contact avec nous sur RTL.fr.
S'il y a quelqu'un de Cannes et la Bocca et machin qui a un héritage, je suis preneur.
N'en rajoutez pas, là. Vous allez rallumer les braises. Merci, en tout cas, l'émission est maintenant terminée et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.